Bonjour mademoiselle.
Bonjour.
Je cherche un beau cadeau pour ma femme et moi.
Eh bien, je vous propose deux formules carré 4G de SFR.
Ah mais vous me gâtez.
Mais c'est pas fini. Avec vos deux forfaits 4G, on vous offre la box de SFR.
Attendez, vous voulez dire que tous les mois je ne paierai plus mon abonnement à la box, mademoiselle?
C'est ça, tant que vous gardez vos deux forfaits 4G.
Ah oui mince, il faut que je reste avec ma femme.
À Noël avec SFR, offrez plus que la 4G.
Offre soumise à condition, valable jusqu'au 22 décembre 2013, sous réserve d'éligibilité. Remise de 29,99€ par mois. Détails sur sfr.fr.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand nous propose d'évoquer une grande figure contemporaine cet après-midi sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Nous allons en effet parler de Mère Teresa à l'occasion de la sortie du livre de Philippe Legrand. Ça s'appelle « Mère Teresa, ce qu'elle n'a pas dit ». Vous allez voir que nous allons découvrir un certain nombre d'aspects moins connus de Mère Teresa. Il faut vous dire que il y a 4 ans, il était prévu que je consacre à ce personnage un numéro de ma série estivale sur les monstres sacrés. Et puis, ça n'avait pas pu se faire, l'émission avait dû être annulée. Je suis d'autant plus heureux de pouvoir la faire aujourd'hui.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Sophie sur les sirènes que l'on a entendues à midi, comme chaque premier mercredi
du
mois.
Oui, alors vous les avez peut-être entendues, mais pour tout vous dire, moi j'ai un souci, c'est que je ne les ai pas entendues. Mais on est en train d'essayer de résoudre cette énigme, on en saura peut-être davantage dans une heure. Pour le moment, je vous propose de prendre le chemin de Calcutta.
Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Centaines d'ouvrages ont été consacrés à cette véritable légende planétaire, prix Nobel de la paix en 1979, considérée comme le symbole même de l'altruisme et du dévouement. Elle est à l'origine de 517 missions dans plus de 100 pays. Il y a 10 ans, le 19 octobre 2003, le pape Jean-Paul II béatifiait Mère Teresa de Calcutta, née Agnès Gongcha, petite femme au sourire lumineux, d'allure, disons, faussement fragile, adulée par des millions de gens, mais aussi, nous ne le cacherons pas, contestée et mise en cause par certains, notamment pour son intransigeance. Mère Teresa, disons-le, est une icône mondiale et rappelez-vous, au moment de ses obsèques, la terre entière s'est arrêtée de respirer. Voilà ce que ça donnait sur l'antenne d'Europe 1 à ce moment-là.
Ils étaient des centaines de milliers ce matin dans les rues de Calcutta pour accompagner la dépouille de Mère Teresa jusqu'au stade Netaji où se sont déroulées les obsèques de la religieuse. La police a eu beaucoup de mal à contenir la foule. Il a même fallu arrêter quelques instants l'affût de canon sur lequel se trouvait le cercueil ouvert de Mère Teresa. Un long et dernier voyage dans les rues de la Cité de la Joie. La cérémonie des obsèques proprement dite a duré plus de 2 heures au stade couvert de Netaji où plus de 15 000 personnes ont pu y assister, parmi lesquelles de nombreuses personnalités. La France étant représentée par Bernadette Chirac et Bernard Kouchner, secrétaire d'État à la Santé, étaient également présentes Hillary Clinton et un certain nombre de têtes couronnées, notamment la reine Nour de Jordanie ainsi que la reine des Belges, Fabiola. Il y avait aussi les blessés de la vie, pauvres, mendiants, malades, si chers à Mère Teresa. Le témoignage d'une habitante de Calcutta.
Ça m'a beaucoup touchée cette cérémonie parce que c'est pour la première fois que je vois une cérémonie qui était tellement bien présentée à Calcutta. Avant, il n'y avait jamais une cérémonie comme ça. En Inde, c'est vrai, en Inde, il se passe beaucoup de choses, mais c'est une cérémonie qui était très, très grande. Et je crois que tout le monde entier est venu voir cette cérémonie. On ne va pas oublier Mère Teresa. Et ça a toujours reconnu dans notre histoire de l'Inde.
Une habitante de Calcutta ce matin.
C'était Jean-Pierre Montanet, donc, sur Europe 1, le 13 septembre 1997. Alors, dans son livre, Philippe Legrand retrace le parcours inouï de cette Albanaise d'origine qui n'obtiendra la nationalité indienne qu'en 1948 et fondera, le 7 octobre 1950, la Congrégation des Sœurs Missionnaires de la Charité. Avec lui, tout à l'heure, nous allons essayer d'aborder un certain nombre des aspects, non seulement de la vie, mais bien entendu, si je puis dire, de l'œuvre ou des œuvres de Mère Teresa. Le grand tournant de la vie de cette femme, sa révélation avec un grand R, tout ça a eu lieu En 1946, elle décide à ce moment-là, mais ça paraît relever peut-être moins d'un choix que de l'évidence pour elle, elle décide de dédier sa vie aux démunis, aux enfants, et bien entendu, c'est ce qui aura le plus frappé les médias occidentaux, aux mourants. Nourrir, soigner, aimer, apaiser, accompagner jusqu'au seuil de la mort, aucune souffrance n'est inaccessible à la compassion de Mère Teresa. Elle disait, vous savez, s'il y a des pauvres sur la lune, nous irons aussi. Et il ne devait pas y avoir de limite, en quelque sorte, à cette action. Donc, tout bascule un certain 10 septembre 1946. C'est ce qu'elle appellera le jour de l'inspiration. Elle a 36 ans à cette époque-là. Elle est déjà religieuse, évidemment, missionnaire en Inde, je vais y venir. On est en 46, donc dans une Inde extrêmement agitée, puisque dans quelques mois sera déclarée l'indépendance, évidemment, de l'Inde. Elle est en train de voyager en train entre Calcutta et Darjeeling, dans les conditions que vous pouvez imaginer. Et c'est elle qui raconte « Je devais sortir du couvent et aider les pauvres en vivant avec eux ». C'est une révélation, c'est un ordre qu'elle reçoit. C'était un ordre, dit-elle d'ailleurs, un devoir, une certitude. Je savais ce que je devais faire, mais je ne savais pas comment. C'est toujours la même histoire avec ces grands mystiques. Nous parlions l'autre jour de Mère Marie-Aimée de Malétroit. C'est cette injonction qui les rend, dans un premier temps, encore plus impuissants qu'avant, car il faut savoir quoi faire de cela, quoi faire de cette vocation. Elle qui jusqu'alors enseignait, c'est une injonction qu'elle entend, ou qu'elle croit entendre, « Tu n'es pas venu pour être professeur, mais si tu fais le bien, tu es là pour aider les autres, il faut que tu sortes du couvent pour aider les autres ». Voilà les trois mots, finalement, de cette émission, « aider les autres ». Alors évidemment, ce ne sont pas là de modestes tribulations, vous l'admettrez. Celle qui, à cette époque, est encore sœur Teresa, s'interroge sur la manière de mettre en œuvre ce commandement. Elle veut aller très loin, elle voudrait carrément fonder un nouvel ordre religieux, sauf que alors sur ces entrefaites, elle tombe malade, comme souvent, encore une fois, dans ces moments de bouleversement total de l'âme, mais aussi du corps. Elle est affectée d'un début de tuberculose. La voilà donc envoyée dans un sanatorium à Hansansol, on est donc dans le Bengale oriental, presque aux frontières du Bangladesh, et je vous rappelle qu'il faut tenir compte de la conjoncture politique. Son temps de repos est d'ailleurs écourté en raison de cette crise qui est en train, c'est plus qu'une crise, de ce cataclysme qui est en train de secouer l'Inde, et les sœurs la rappellent. À son retour à Calcutta, elle demande à l'archevêque l'autorisation de quitter sa congrégation. Et là, c'est assez surprenant, ça fait partie des choses qu'il va falloir que nous éclaircissions tout à l'heure, bien entendu. L'archevêque le lui refuse. Elle n'a somme toute pas de soutien. Voilà ce qu'écrit Philippe le Grand. Mère Teresa est confrontée au doute de Monseigneur Perrier, l'archevêque de Calcutta, non pas qu'il refuse d'admettre le bien fondé de son projet, mais les vœux prononcés par Sœur Teresa dans l'ordre de Notre-Dame de Lorette sont uniques et ne peuvent pas être partagés. Une fois que vous avez prononcé vos vœux, vous ne pouvez pas revenir dessus aussi facilement, bien entendu. Finalement, la supérieure de Sœur Teresa va accepter de la laisser s'émanciper de la congrégation, mais sous réserve de l'agrément du pape et la fameuse permission. Elle parvient le 8 août 1948, avec quand même cette restriction, cette condition, si l'on peut dire. Vous avez un an. On a l'impression de voir certains contrats qui sont passés dans le monde des affaires. Vous avez un an pour vous consacrer à votre nouvelle mission avant que l'archevêché de Calcutta, dont vous dépendez aujourd'hui, examine les résultats de vos actions. Voilà comment va commencer une des plus belles, une des plus fulgurantes aventures humaines du XXe siècle.
Sur Europe 1, un extrait de la bande originale du film La Cité de la Joie, réalisé en 1992 avec l'acteur Patrick Swayze. N'oubliez pas que vous pouvez réagir tout au long de l'émission, nous envoyer vos messages par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag SCDH ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant sur Europe 1, nous vous retrouvons, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur la création de la Congrégation des Sœurs Missionnaires de la Charité.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Mère Teresa.
Alors, cette Mère Teresa, elle n'est pas née Mère Teresa, évidemment. Elle s'appelait Agnès Concia Biotiu. Je prononce, alors c'est sous toute réserve, évidemment. Elle est née, donc, en 1910. Et, le 27 août 1910, voilà, à Skopje. Donc, à l'époque, on est en Albanie. Son père va mourir, relativement tôt, à 45 ans, en 1919. Donc, à l'époque, Agnès a 9 ans seulement. Et elle a deux sœurs et un frère. On peut dire qu'elle est née dans un milieu où la pauvreté fait partie intégrante de la vie. Et la charité aussi, au meilleur sens du mot. Elle a été éduquée dans le respect de toute cette tradition religieuse. Ses parents, Nicolas et Drana, sont des agriculteurs très pratiquants, très, très catholiques, qui aident comme ils peuvent les pauvres de la ville. Ils font partie de ces gens, vous savez, qui laissent toujours un couvert de plus à table. En espérant, je dis bien, que quelqu'un viendra frapper et qu'on pourra lui donner à manger. Nicolas et Drana tiennent à cette habitude généreuse qui permet d'accueillir au gré des visites et des repas les promeneurs perdus, les victimes de la misère qui ont faim, écrit justement Philippe le Grand. La mère d'Agnès, donc Drana, conseille à ses enfants, elle dit: quand vous faites du bien, faites-le comme une pierre que vous jetez à la mer, hein. C'est une sorte d'appel, en quelque sorte, hein, cette volonté de faire le bien. Alors, la vocation de la petite Agnès, vous le comprenez, ne naît donc pas du tout par hasard. À l'âge de 12 ans, elle veut se consacrer à Dieu. Elle va attendre 6 ans quand même avant de demander l'autorisation à sa mère d'entrer dans une congrégation. La mère est plutôt d'accord. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne fait pas l'unanimité, ce choix, bien entendu. Et son frère, Lazare, puisque maintenant il n'y a plus de père, encore une fois, dans cette famille, le frère Lazare considère que c'est du gâchis. Je lis un extrait de ce Mère Teresa, ce qu'elle n'a pas dit de Philippe le Grand. Ton rôle n'est pas celui que tu crois. Ton frère aîné a le privilège de quelques années d'expérience de plus que toi. La maturité de mon âge me pousse à te dire, c'est le frère, hein, qui parle, que ton chemin n'est pas éloigné de celui de notre mère dans son dévouement autant que dans son amour. Le 26 septembre 1928, elle va donc quitter sa terre natale. Vous imaginez l'émotion, évidemment, qui accompagne ce départ. Et ce 26 septembre, tous ses amis sont là sur le quai de la gare, une gare albanaise tranquille qui affiche les mêmes trains aux mêmes heures depuis des décennies. Les bras s'agitent, nous dit Philippe le Grand, les torrents de larmes s'assèchent sous les applaudissements. On a l'impression d'un film, et ça ferait entre nous un très beau film, un peu dans l'esprit de ce qu'avait fait Richard Attenborough sur Gandhi au milieu des années 1980. Elle ne reviendra en Albanie que le 14 août 1980. 89, vous imaginez, 60 ans plus tard, pour une visite privée. Elle était allée à ce moment-là sur les tombes de sa famille. On peut dire que ça a été très dur pour elle, parce que l'Albanie, vous voyez un peu de quel régime je parle, et évidemment, au moment où sa mère était mourante, elle n'avait pas eu de visa pour retourner. À la fin de 1928, elle entre chez les sœurs de Notre-Dame de Lorette, donc on est à Rathfarnham en Irlande, cette communauté missionnaire qui a été fondée au XVIIe siècle par une certaine Mary Ward, qui est un grand personnage, une figure en Irlande. Et c'est là qu'elle va être envoyée, c'est une communauté missionnaire, hein. Elle est envoyée par les sœurs en Inde, je cite encore Philippe le Grand. Agnès, à l'école, entend parler de l'Inde pour la première fois lorsque le professeur déroule la carte du monde. Il reçoit dans la classe des lettres de missionnaires. Agnès a tout juste 8 ans. Et elle avait dû probablement rêver à tout cela. Ça arrive très vite, hein. Elle part pour Calcutta en janvier 1929. Elle va se consacrer à son noviciat à Darjeeling. Elle enseigne donc la géographie aux jeunes filles des hautes castes, hein, qui sont là, présentes dans le collège Sainte-Marie de Calcutta. Pour l'instant, on est assez loin des pauvres, évidemment, vous l'imaginez. Et c'est là qu'aura lieu cette révélation dont je vous parlais tout à l'heure. Calcutta, à cette époque, on est au premier tiers du XXe siècle, cette capitale du Bengale indien, est une ville d'une extrême pauvreté. Oh, inutile d'en parler au passé, car je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit une ville très riche aujourd'hui. aujourd'hui, quoique, en tout cas, c'est encore une ville qui présente, bien entendu, des quartiers gigantesques où la pauvreté règne. Mère Teresa, sœur Teresa, devrais-je dire, a écrit dans un journal catholique, si les gens de nos pays voyaient ce spectacle, ils cesseraient de se plaindre de leurs petits ennuis. Et c'est vrai que tous ceux qui sont allés en Inde, tous ceux qui ont fait ce voyage ou, je devrais dire plutôt, cette expérience, savent à quel point, et j'en parle sans l'avoir fait moi-même, mais je suis entouré, moi, d'amis de l'Inde et qui connaissent ce pays et qui ne peuvent s'empêcher d'y retourner régulièrement. Ils m'ont tous raconté cette émotion à nul autre pareil, cette expérience quasiment indicible d'une pauvreté extrême dans une joie non moins extrême.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Mère Teresa.
Alors, Mère Teresa, elle était encore Sœur Teresa. D'ailleurs, elle prend ce nom de Sœur Teresa en hommage à notre Thérèse, hein, bien entendu, la petite sainte Thérèse de Lisieux, la sainte française. Elle prend ce nom en 1931, c'est pas un hasard, hein, il y a une espèce d'engouement extraordinaire dans tout le monde catholique pour Sainte Thérèse de Lisieux à ce moment-là. Et elle prononce ses vœux temporaires, c'est là qu'elle devient donc Sœur Teresa. Elle a ce petit sari blanc, vous savez, avec les lignes bleues qui vont évidemment, qui va devenir tellement célèbre à travers toute la planète, beaucoup plus tard. Les vœux définitifs seront prononcés en 1937. Elle devient directrice du collège Sainte-Marie en 44. Et vous voyez qu'on s'en approche de cette grande révélation, donc, de 1946. Et c'est en 48 qu'elle obtient donc cette autorisation, ce que je vous disais tout à l'heure, de quitter définitivement le couvent. Quand je dis quitter le couvent, elle s'en va. Je racontais l'autre jour l'histoire du Bouddha Siddhartha, hein, qui partait, qui se dépouillait de tout. Mais là, ça fait un peu penser à ça, parce qu'il n'y a pas seulement l'ambiance indienne, si je puis dire. Elle part avec 5 roupies en poche, vous imaginez, autant dire pas grand-chose du tout. Et elle trouve le moyen d'en distribuer 4 aux mendiants qu'elle croise. Et finalement, la dernière pièce qu'elle donne, c'est à un prêtre pour l'aider, et qui va la rattraper, comprenant tout ce dont elle est porteuse et qui va lui donner finalement 50 roupies. Alors elle se rend à Patna, un de nos anciens comptoirs français, Pondichéry, Chandernagore, Surate, Patna, Yanaon, etc. Vous vous rappelez, on apprenait ça par cœur à l'école autrefois. Elle se rend à Patna, dans le nord-est de l'Inde, où elle va suivre une formation d'infirmière. C'est que là, bientôt, elle va se retrouver au premier contact même de la pauvreté, de la misère, de la maladie, etc. Juste avant Noël 48, elle ouvre sa première école dans la banlieue de Calcutta. Elle va donner des cours. Alors, faut imaginer, hein, le premier jour, quelques élèves, et puis de plus en plus, tout ça devient... Elle est constamment... Finalement, le destin de cette femme aura été d'être constamment dépassée par les événements. Elle l'a beaucoup à donner, mais évidemment, elle ne peut pas donner à tous ceux qui arrivent de partout. Ça doit être un phénomène assez extraordinaire. D'ailleurs, cette Inde qui vous envoie ses Indes, devrais-je dire, pour rester dans la couleur locale et du temps, qui vous envoie constamment de nouvelles âmes à secourir, en quelque sorte. Elle cherche à vivre au plus près des pauvres à partir de tout début de l'année suivante, hein, tout début de l'année 49. Elle cherche une maison. Le père Van Exel va l'aider et à ce moment-là, on va finir par trouver, alors ça ne vient pas tout de suite, mais on va finir par trouver un lieu qui soit propice à cette congrégation, à cette mission extraordinaire. On va développer tout ça dans un instant, bien sûr, avec Philippe Legrand. Alors, le 19 mars 1949, la première à la rejoindre dans son apostolat, c'est une de ses anciennes élèves qui s'appelle Sulakshmi Das et qui va devenir la première fidèle, en quelque sorte, et Dieu sait qu'il y en aura ensuite une telle infinité. Le 7 octobre 1950, la congrégation est reconnue par l'Église comme une congrégation religieuse à part entière. Votre ordre s'engage à secourir partout les vagabonds, les mourants, les malades, les handicapés, écrit l'archevêque de Calcutta dans sa lettre patente, sans relâche. Il y a 12 membres seulement au départ, hein, dans cette toute petite congrégation, avec pour œuvre principale l'enseignement, bien sûr, aux enfants abandonnés. Et puis, cette action sociale,
cette charité partout dispensée, bien entendu. C'est assez extraordinaire. Au printemps 1953, la Congrégation des Sœurs Missionnaires de la Charité va s'établir officiellement au 54A Lower Circular Road dans Calcutta. Ce 54A va devenir une adresse mythique, évidemment. Et aujourd'hui encore, alors que le local a été transformé, évidemment, il est très différent, mais aujourd'hui encore, il y a cet écriteau devant le 54A avec ce nom qui, encore aujourd'hui, permet de susciter les ardeurs à travers le monde entier, c'est Mother Teresa. Cette maison mère des missionnaires devient en quelque sorte le cœur d'un véritable réseau qui va s'étendre de plus en plus. Au bout de 10 ans, il y a déjà 25 foyers ouverts. Le pape Jean-Paul II, en octobre 2000, disait « Ce modeste début est devenu un puissant courant des traces dans l'Église. » Tandis que les missionnaires de la charité ont grandi de façon inimaginable il y a 50 ans. C'est vrai que ça a été une aventure tout à fait extraordinaire. Alors, quelle vie mène-t-on dans cette congrégation ? Ça, nous allons y venir dans un instant avec Philippe Legrand. Ce sur quoi j'aimerais juste insister un petit instant pour finir, c'est sur le rôle essentiel qu'a eu Mère Teresa et qu'ont eu toutes ces âmes charitables qui l'ont rejointe dans le domaine de l'accompagnement aux mourants. Ce mouroir, ça paraît extraordinaire, qui est créé en 1952 à Calicut. Ce centre d'accompagnement des mourants va jouer un rôle essentiel, non seulement bien entendu pour les populations locales, dans le soulagement de certaines douleurs et dans l'accompagnement, mais aussi, et peut-être surtout, c'est ce qui va donner son rayonnement à Mère Teresa, dans l'histoire même de l'Église, de la foi, ça va devenir une sorte d'exemple qui fera école dans le monde entier, chez les très pauvres, mais pas seulement. Bonjour Philippe Legrand.
Bonjour Franck.
J'avais prévu d'aller beaucoup plus loin dans la vie de Mère Teresa pour tout vous dire, mais je tenais aussi à ne pas manquer un certain nombre d'étapes cruciales. Avec vous, nous allons revenir sur ces étapes et nous allons surtout essayer de comprendre qui était cette personnalité tellement forte sous ses dehors, tellement humble.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Giulio Caccini, un extrait de l'Ave Maria interprété par la soprano Inessa Galante. Nous sommes au cœur de l'histoire de Mère Teresa. Aujourd'hui avec vous Franck Ferrand et votre invité Philippe Legrand, auteur de Mère Teresa, ce qu'elle n'a pas dit aux éditions Salvator.
Alors Philippe Legrand, pour ceux qui nous rejoindraient en cours, il faut dire et rappeler d'un mot à quel point Mère Teresa était une figure majeure du XXe siècle, prix Nobel de la paix en 1979. Elle avait déjà eu le prix indien Padma Shri en 1962 et elle était considérée, c'est le haut fonctionnaire indien des Nations Unies, Navin Chawla, qui disait qu'elle était la femme la plus puissante du monde. Et il le lui dit un jour, il lui rend visite et elle répond « Comment ça? Si c'était le cas, j'apporterais la paix sur Terre. » Il y a ce paradoxe chez tous ces grand personnage complètement habité par une mission qui en l'occurrence est une mission qu'elle considère elle-même comme divine, ce paradoxe entre d'un côté une extrême humilité, ce besoin de dépouillement, de se donner entièrement aux autres et puis d'un autre côté un orgueil quand même assez extraordinaire puisque Mère Teresa tout en déniant l'appellation qu'il lui réserve, ce haut fonctionnaire, admet très bien qu'elle pourrait après tout avoir une dimension christique elle-même. C'est un paradoxe ça, c'est la double dimension de ce genre de personne.
Alors c'est ce qu'on dit, Franck, mais dans cette enquête, dans ce reportage que j'ai fait sur les pas de Mère Teresa, pour revenir au fond sur sa route qui était la sienne, ce long chemin que vous avez parfaitement raconté, c'est vrai que on pense, il y a des gens qui parlent, mais il y a des gens qui parlent et qui ne l'ont pas rencontré. L'objectif de ce reportage que j'ai fait, c'était d'aller à la rencontre de ces témoins, les derniers survivants, et lorsqu'ils n'étaient pas toujours parmi nous, aller retrouver dans les archives ce qu'ils auraient dit, ce qu'ils ont dit, ces témoins qui ont fait un bout de chemin avec elle. Je leur ai demandé ce qu'ils ont ressenti lorsqu'ils ont posé pour la première fois leurs yeux dans les siens, dans ces yeux bleus, la couleur de ce sari que vous évoquiez, ce bleu-là, c'était ce bleu de ses yeux, cette voix rocailleuse qui les accueillait. Ils m'ont dit, ils m'ont raconté. Et au fond, il y avait tout de même, en les entendant, c'est ce que j'explique dans le livre, énormément d'humilité. Alors, oui, certains, on va dire, ses détracteurs.
Mais réglons cette affaire,
insistent
parce que c'est
bien
important,
sur
y a quand
son
même...
orgueil.
Oui, voilà.
Mais il faut dire que dans ceux que j'ai vus, il n'y avait pas d'orgueil. Il y avait une simplicité, il y avait une course contre la montre en permanence pour
être partout
aller
présente,
vers les autres,
oui.
Pour être partout présente. Elle dormait peu, elle avait un rythme de vie terrible. Elle ne pensait plus à elle, elle pensait à la vie des autres.
Alors cette femme tout à fait extraordinaire, vous avez rencontré, dites-vous, un certain nombre de ceux qui l'ont connue, a commencé par votre propre frère en l'occurrence. J'ai le droit de révéler ça ?
Ça... Oui, absolument. D'ailleurs, je l'ai beaucoup entendu m'en parler. Il m'a montré aussi des photos que je n'ai pas utilisées, qui ne sont pas publiées dans le livre, mais que je raconte. Il a été près d'elle. Il m'a effectivement donné des clés pour la raconter, des témoignages aussi que j'utilise, les siens dans le livre, que je remets en scène par moment. Et surtout, autour de ce 54A que vous évoquiez, justement, cette maison mère, cet endroit où les pèlerins affluent, là où il faut aller vite, là où il y a de l'urgence, il faut se pressé jour et nuit pour aller aider, donner de l'amour et aussi sauver. Puisqu'il y a ce mouroir que vous évoquez du côté de Caligat, mais il y a aussi l'orphelinat, il y a aussi ces maisons pour accueillir les hommes et les femmes.
Alors, au-delà de cette dimension tout à fait concrète, pratique d'une aide sur le terrain, il y a également une aide plus spirituelle et plus généralisable en quelque sorte. C'est-à-dire que la figure, et après on va rentrer dans la vie de Mère Teresa bien sûr, mais la figure de Mère Teresa, ce personnage, est aussi en quelque sorte un encouragement à voir la vie plus lumineuse, plus joyeuse, plus humaine, en quelque sorte.
Oui, elle parlait même du sourire, le sourire de Dieu.
C'est ça.
On avance dans les ténèbres, on est dans ces bidonvilles, on est là où rien ne va, là où la mort rôde, là où les rats sont nombreux, mais on avance avec le sourire. Le sourire, c'est la force de l'énergie. C'est ce qui va vous donner envie de continuer, peut-être aussi de survivre là où ça ne va plus.
Le mot, vous l'avez prononcé, c'est le mot de lumière que l'on retrouve donc dans tous les parcours de ces personnages habités par une mission divine. Cette lumière, dans son cas, elle l'a reçue extrêmement tôt. Elle la voit dès l'âge de 9 ans, quand les autres petites filles sont en train de jouer à la corde à sauter à la marelle.
Alors ça, c'est un moment important, Franck, parce que vous l'avez raconté effectivement dans cette première partie, mais il faut y revenir parce que dans l'enfance, il y a probablement toute l'histoire de sa vie, toute l'explication de ce qui va suivre, de ce destin fabuleux au service des autres. À 9 ans, effectivement, il y a une lumière, il y a cette révélation, mais pourquoi ? Elle voit son père qui part le matin pour une réunion. Il faut revenir sur ce moment-là de sa vie. Son père avait au fond quelques moyens. Il les a donnés à sa famille. Il était considéré en Albanie comme un bourgeois avec quelques moyens. Il a donné les moyens
d'éducation.
Tout est très
relatif, évidemment, parce que il faut imaginer ce qu'était l'Albanie de l'époque.
Oui,
mais néanmoins,
il était dans cette catégorie-là. Un commerçant avec quelques facilités, parlant les langues. Il en parlait 5. Là où Mère Teresa avait beaucoup de difficultés pour parler l'anglais, il a fallu qu'elle apprenne la langue internationale. Elle y est venue, évidemment, il a fallu, en Irlande que vous évoquiez tout à l'heure, c'est là qu'elle a appris l'anglais. Mais avant tout cela, à 9 ans, elle voit son père partir un matin, il avait des centaines d'activités, 13 occupées pour la paroisse de là où ils étaient, de Skops, qui était la ville principale, leur ville, pas loin de l'église, l'église du Sacré-Cœur de Skops.
Aujourd'hui, la maison natale est devenue une sorte de musée, un lieu très important d'ailleurs.
Un lieu de culte, de pèlerinage, mais dans cette cette maison-là, elle voit son père qui était aussi engagé auprès de la paroisse, on le disait à l'instant, mais aussi dans la vie politique, on le voyait maire, il ne le voulait pas, il avait peur du pouvoir. Malgré tout, il a accepté quelques réunions politiques pour défendre au fond la culture de l'Albanie et les traditions albanaises. Donc il part le matin après avoir été la veille, elle a 9 ans, la veille, il est allé passer une visite médicale de routine, le médecin de la famille le trouve en pleine forme. Nikolai, c'était son nom, part le matin très tôt, il embrasse la famille, il embrasse évidemment Drana, la mère d'Agnès, qui deviendra mère Teresa, et puis son frère et sa sœur. Il part en pleine forme, c'est un colosse, on le présente avec ce charisme, mais aussi taille de rugbyman. Et il revient le soir, titubant, malade, vomissant, ayant du mal à se retenir. Il fallait qu'il s'allonge. Il n'avait plus de force. Drana est inquiète, toute la famille est inquiète. Et Agnès voit son père mourant. Mourir. Drana appelle le médecin de famille qui l'ordonne de l'emmener à l'hôpital. Il vient l'aider. Aider la famille Bojaksiu pour emmener le père Nikolai à l'hôpital. Et là, la famille, dont Agnès, jeune, 9 ans, va assister aux dernières heures, aux derniers soupirs de son père. On peut dire qu'effectivement, à ce moment-là, il y a une lumière. La lumière intérieure, une lumière spirituelle, mais il y a aussi probablement une prise de conscience. Parce que Drana va se retrouver seule
et voilà,
à élever ses enfants. Mais elle souhaite garder cette tradition du couvert de plus que vous évoquiez tout à l'heure, de la Bible au milieu de la table, cette volonté d'accueillir celui qu'on ne connaît pas, mais qui est abandonné, qui a besoin d'un peu de chaleur, qui a besoin d'un peu de soleil. N'oublions pas non plus que nous sommes en Albanie, et comme vous le disiez tout à l'heure, l'Albanie de cette époque, elle a 9 ans, on est dans les années 10, 15, 20. Effectivement, il fait pas toujours très chaud, on n'a pas non plus le chauffage électrique pour évidemment donner un peu de chaleur en plein hiver.
Alors, cette famille est une famille très pieuse, très charitable, très pratiquante, mais pour autant, ce n'est pas une famille qu'on appellerait religieuse. Notamment, elle n'a pas donné de prêtre ou de nonne, cette famille. La vocation de la petite Agnès naît un peu comme une chose tout à fait nouvelle. C'est un problème auquel sont confrontés sa mère, son frère.
Oui, vous parliez de l'autorité du frère. C'est vrai que Lazare, c'est son nom, Lazare va remplacer le père. Il va lui dire, écoute, c'est une sorte de claque verbale. Il va lui dire, non, ta présence est ici. Tu deviendras toi aussi une mère de famille comme notre mère. Et ton rôle sera au fond de t'occuper de tes enfants, de t'occuper de ton mari. C'est vrai que c'est un choix totalement inédit dans l'histoire de la famille Bojaksiu, un choix qui va poser quelques questions, quelques soucis aussi à Drana, sa mère, puisqu'à
oui,
l'âge de 18 ans, le jour exact de ses 18 ans, Agnès va dire à sa mère: voilà, je suis décidé, je veux faire ma vie avec Dieu, je veux faire ma vie dans l'Église. Et le prêtre de Skops, évidemment, est au courant et dans la confidence. Il va l'aider, il va l'orienter. C'est lui qui va trouver le couvent des sœurs de Lorette, dont vous parliez tout à l'heure, Franck. Mais alors, elle lui demande une nuit de réflexion.
Elle découvrira l'Irlande. Avec les sœurs missionnaires, la voilà partie carrément pour les Indes, comme on disait à l'époque, où les missions britanniques évidemment étaient très très nombreuses. Elle va découvrir la misère en Inde. Pendant tout ce temps, elle reste une enseignante, elle. Elle n'est pas encore tout à fait au contact de l'extrême misère. Elle la voit néanmoins, et cette extrême misère lui parle. C'est dans ces conditions-là que va naître cette extraordinaire vocation dont nous parlons dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire avec à l'honneur cet après-midi, Mère Teresa. Vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité Philippe Legrand, auteur de Mère Teresa, ce qu'elle n'a pas dit aux éditions Salvator.
Alors j'ai raconté au début de cette émission la révélation de sœur Teresa, hein, ce qui va la conduire à sortir de sa propre congrégation pour fonder son ordre, pour agréger autour d'elle toutes les bonnes volontés. Alors ceux qui n'auraient pas pu l'entendre mais pourront toujours le réécouter, si je puis dire, en podcast. Et ce que je vous propose, Philippe Legrand, c'est de ne pas revenir sur cet aspect biographique, mais plutôt d'entrer de plein pied dans ce qu'était réellement la congrégation de Mère Teresa. Comment ça se passait à partir du début des années 50? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle fait venir à elle beaucoup de bonnes âmes et de personnes très dévouées. Elle a le don de susciter les vocations.
Oui, elle vous regarde et au fond c'est un espèce de regard magnétique, droit dans les yeux, et lorsqu'elle vous croise, elle vous dit tout de suite, hein, d'emblée, il n'y avait pas de détour dans son langage, elle était extrêmement directe, les mots étaient extrêmement simples et donc très clairs, un don ou une aide. Et je pense tout de suite à ce photographe de Paris Match, dont je raconte d'ailleurs un épisode de sa vie au contact de Mère Teresa. Il a été l'un des premiers à la photographier, Jacques Garofalo. Il était plutôt habitué à photographier les stars au Festival de Cannes, les stars chez elle, Bardot et d'autres encore. Mais il
était aussi
d'autres genres de modèles. Et là, il faut dire qu'il part. Il est envoyé pour rencontrer celle dont on commence à parler, qui intrigue, qui surprend, qui interpelle le monde. On n'est pas du tout à l'époque du téléphone portable, d'Internet, de Facebook. On ne s'envoie pas des messages aussi facilement. Donc on met aussi du temps pour arriver et trouver les endroits. Et les femmes n'ont pas vraiment droit au chapitre. Mais on parle de cette autorité. L'autorité de cette femme qui va ouvrir et libérer la voie des femmes ensuite. Une femme qui va, vous l'avez signalé d'une certaine manière, aussi essayer de se faire entendre au sein de l'autorité, de la hiérarchie de l'Église, pour obtenir justement cette envie qui était la sienne, cette volonté de créer cette congrégation très active, très organisée. Et donc Jacques Garofalo frappe à la porte, il est à l'entrée du mouroir de Calcutta, on lui dit qu'elle est là, et c'est elle qui ouvre la porte. Elle ouvre la porte du haut de ses 1m50,
oui,
Jacques Garofalo est un séducteur,
femme,
grand lui aussi, comme le père de Mère Teresa. Jacques entend cette voix très grave lui dire, une voix profonde qui vient du fond du cœur, lui dire un don ou une aide. Et Jacques est un peu étonné, déboussolé, il sait, mais il lui dit, et la phrase a été essentielle, j'aimerais juste vous photographier avec le cœur. Et là la porte s'ouvre et Jacques raconte que elle s'en va, elle n'est plus là, elle le laisse rentrer, mais elle ne l'accompagne pas. Parce qu'elle a besoin de courir, il faut qu'elle aille justement là où est sa vie. L'essentiel de sa vie est auprès de ceux, et entre autres au mouroir, qui sont entre la vie et la mort. Qu'elle va prendre dans ses bras, qu'elle va aider et accompagner dans la mort.
Elle l'a laissé agir, elle l'a laissé faire ses photos, mais elle ne s'y est pas prêtée. Elle est retournée vers sa mission en vérité. Et une mission qui était conçue par elle comme une forme d'urgence. Alors c'est peut-être là qu'intervient ce dont je parlais, j'y ai fait tout à l'heure rapidement allusion, mais cette espèce de caractère très fort qui a quand même heurté un certain nombre de personnes. Hein. Elle n'était pas facile, c'est le moins qu'on puisse dire.
Elle n'était pas facile parce que sa vie était difficile et parce que, au fond, le rythme qu'elle s'imposait, elle pensait que toutes les autres, les sœurs, mais aussi les frères, puisqu'il y avait aussi des frères missionnaires de la charité qui viendront un peu plus tard, elle pensait que, au fond, tout le monde pouvait suivre son rythme. Le rythme de l'urgence, le rythme de la foi, aller là où il y a des besoins essentiels, d'abord évidemment à Calcutta, puis ensuite dans le reste du monde. Mais, au fond, c'est assez simple à comprendre lorsque ces témoins m'ont parlé dans ces archives que j'ai retrouvées. À tout moment, on est entre la vie et la mort. On est dans le besoin permanent. Les plus pauvres parmi les pauvres, au fond, lancent des appels. Il faut les entendre. Et elle est l'une des premières dans ce coin-là du monde à tendre la main et à les entendre. Et à attirer le reste du monde. À attirer aussi le reste du monde. Cette femme d'un mètre cinquante, profondément timide. On pourra raconter peut-être tout à l'heure, Franck, cet épisode de sa première télévision, de sa première émission.
Mais racontez-nous ça.
Au fond, elle n'est pas du tout experte en la matière, mais elle est tellement portée par sa foi que, et par cette lumière dont on a là, longuement parlé ensemble, Franck, depuis le début de l'émission. C'est vrai, en évoquant Mère Teresa, elle est attiré en Angleterre par une de ses amies qui s'appelle Anne Blakey, qui fait partie de ce groupe des amis qui sont à l'extérieur de la congrégation, qui ne sont pas religieuses, mais qui ont choisi d'adhérer, de la rejoindre, comme des centaines de milliers de personnes qui vont donner des dons, qui vont donner du temps, etc., qui vont faire le voyage, des Français qui partent là-bas s'installer, pour être à ses côtés. Et elle fait le voyage inverse, guidée par Anne Blakey. Elle arrive à Londres. On est en 1969. En 1969. Vous imaginez Mère Teresa telle que vous l'avez décrite, 1m50 avec son sari, ses trois bandes bleues, qui arrive dans le studio de la BBC. Malcolm Aldridge, un séducteur, on l'appelle le Clark Gable de la télévision, a entendu parler d'elle. Il est convaincu qu'il faut absolument lui donner la parole et la recevoir. Il choisit une heure d'antenne. Les producteurs de l'émission sont inquiets, ils ne l'ont jamais entendue, ils ne savent pas comment elle est face à une caméra, face à un micro. Mais Malcolm rassure toute l'équipe, rassure la production. L'émission est en direct et il lui donne un conseil, elle refuse maquillage, elle refuse au fond tout ce qu'on lui propose.
Tous les artifices possibles.
Absolument, elle reste telle qu'elle est. Et il lui dit, soyez vous-même, tel que vous êtes. À Calcutta, tel que vous êtes dans la maison mère, tel que vous êtes dans l'urgence. Et là, avec ces mots simples, ces mots directs, ces phrases d'une émotion qui proviennent de l'intérieur, qui proviennent de son cœur justement, elle va toucher des millions de téléspectateurs, les appels affluent, les dons arrivent. Et puis, lorsqu'elle sort des studios de la BBC, il y a à l'extérieur, il y a des centaines de personnes qui ne demandent qu'une chose, c'est prendre l'avion avec elle.
Comment faire pour l'aider et pour l'accompagner? C'est complètement... Ça, c'est la capacité à fédérer les ardeurs. C'est tout à fait magnifique, tout simplement. Il passait à travers elle autre chose que le simple message qu'elle avait à délivrer. Il passait précisément une lumière et elle avait le sens, évidemment, de ses opérations. Alors, certains vont dire opérations promotionnelles, etc. C'est pas le but. Le but, c'est de toucher le plus grand nombre. Un des moyens, c'est évidemment ces rencontres extraordinaires qui ont émaillé les années 70-80 avec un certain nombre de très grandes personnalités. Et je pense évidemment la plus célèbre peut-être de toutes les rencontres, c'est avec la princesse de Galles, avec celle qu'on appelait Lady Di.
Oui, elle était dans une période de sa vie où rien n'allait. Lady Diana n'était pas bien, elle vivait mal évidemment cette séparation, elle s'occupait beaucoup de ses enfants. Et puis, cette rencontre se fait, le hasard de la vie. Mère Teresa était très attentive à l'actualité, au personnage aussi qui faisait l'actualité. Et elle la rencontre, elles arrivent à se rencontrer. C'est une démarche qui vient de la princesse, qui vient de Lady Diana. Elles se retrouvent, entre autres... dans le Bronx, puisque elle avait aussi ouvert dans le Bronx une adresse de la congrégation, 143e rue, un endroit où personne ne voulait aller. Et il y avait donc ce bâtiment-là dans lequel avait installé un poulailler pour donner un peu de vie et distribuer des œufs autour de cette adresse dans la 143e rue. Lady Di arrive, Mère Teresa est assez fatiguée, elle se retrouve au rez-de-chaussée de la congrégation dans le Bronx. Il y a trois personnes dans la pièce. Mère Teresa est allongée, elle est fatiguée. Il y a sœur Madeleine qui est à ses côtés, une collaboratrice très active de Mère Teresa. Et puis Lady Diana se livre et lui dit quelle est sa tristesse, quelle est sa tourmente. Et à ce moment-là, Mère Teresa lui dit « Vous souffrez, occupez-vous de ceux qui souffrent encore plus. Votre souffrance sera apaisée. »
Toujours cette idée d'échange et d'aide qui apporte en quelque sorte. C'est peut-être ça la philosophie de Mère Teresa au fond. C'est une aide qui vous révèle en vérité. Hein, c'est dans cet échange-là qu'on est le plus soi-même peut-être. C'est ce que vous montrez dans le livre en tout cas. C'est ça son idée centrale.
Oui, se révéler à travers le regard des autres et dans l'action aussi que l'on peut et dans laquelle on s'implique. Aux côtés des autres. Et juste un mot, oui. Franck, à propos de cet échange avec Lady Diana et Mère Teresa, c'est à l'issue de l'une de ces rencontres que viendra l'idée de cette association, de cette fondation pour aider justement les victimes des mines antipersonnelles dont s'est occupée longuement, intensément Lady Diana.
Alors, il y aurait beaucoup à raconter, évidemment, notamment sur la fin de la vie de cette femme qui est infatigable, mais que malheureusement son cœur ne suit plus. Il va falloir l'ordre du pape en personne de se reposer pour qu'elle accepte de déposer un peu les armes, mais encore pas très longtemps, hein, évidemment. Elle est une sorte de force en action, comme ça, permanente. J'aimerais qu'on termine sur ce qui, moi, me pose le plus de questions, peut-être, c'est la présence de cette femme chrétienne, catholique, dans ce pays bouddhiste. Quel est le lien avec les bouddhistes, très particulièrement, et d'une façon plus générale, avec les habitants de l'Inde ?
Bah d'abord, l'œcuménisme de Mère Teresa qui était réel dans cette époque où on en parlait peu. C'était sa volonté d'accueillir tout le monde, toutes les couleurs, tous les milieux et toutes les religions. Et de prendre soin de tous, qu'ils soient juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes, peu importe. C'est l'œcuménisme. Vous êtes là. Elle pratiquait cette foi, la foi dans l'action, l'action dans la foi. Il fallait d'abord que sa foi soit concrète.
Mère Teresa, ce qu'elle n'a pas dit, c'est l'ouvrage passionné, vous l'aurez compris, de Philippe le Grand aux éditions Salvator.
Sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Sophie sur les sirènes que l'on entend à midi chaque premier mercredi du mois.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez Franck Ferrand aujourd'hui à la question de Sophie qui nous l'a envoyée via la page Facebook de l'émission, qui aimerait savoir d'où vient le fait que la sirène des pompiers sonne tous les premiers mercredis du mois à midi.
Mais moi je veux bien répondre à Sophie, Céline, sauf que j'ai un petit problème, c'est que j'ai bien tendu l'oreille aujourd'hui à midi et à midi 10, et alors d'habitude je les entends très bien, parce qu'en plus moi j'entends ça, là j'ai rien entendu aujourd'hui. Alors pour tout vous avouer, ça fait 2 heures qu'on téléphone partout, à la préfecture de police, à l'hôtel de ville, etc., pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Pour l'instant, on ne sait pas. J'aurai peut-être la réponse d'ici à demain. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que ces sirènes en question, ce sont les sirènes du réseau national d'alerte, qui sont directement héritées de la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, ce réseau est resté intact. On compte environ 4500 de ces sirènes réparties partout sur le territoire de la métropole. Et pour tester le bon fonctionnement de toutes ces sirènes, et le but c'est évidemment qu'elles puissent fonctionner en cas de grand danger, en cas de guerre, évidemment, pourquoi pas, en cas de ce qui serait peut-être plus probable aujourd'hui, en cas de grave pollution, etc. Pour être sûr qu'elle marche, on les fait sonner 2 fois 1 minute, comme ça, chaque mois. Sauf que, encore une fois, on les a pas entendus ce matin. Bon, ben c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Autrefois, avant ces sirènes, il y avait exactement le même système, mais sauf que, au lieu que ce soit des sirènes, évidemment, à l'époque, c'était des cloches. Et vous savez qu'il y avait différentes cloches pour sonner les différents événements de la vie sociale. Il y avait le bourdon, il y avait le glas, il y avait etc. Et on sonnait dans le cas de grands dangers, dans les périodes d'invasion notamment. Et je vous prie de croire que chez nos ancêtres, c'était un son qu'on détestait entendre et qui répandait littéralement la terreur. Il y avait le fameux tocsin. On sonnait le tocsin. Eh bien, les sirènes d'aujourd'hui, lorsqu'elles veulent bien marcher, c'est l'équivalent du tocsin de nos ancêtres. Je veux bien vous expliquer ce qui se passait dans les siècles passés. J'ai parfois un peu de mal à expliciter le présent. Bonjour Elena Mornard, ça vous fait bien rire mes aventures.
Oui, mais sans doute, on les teste chaque premier mercredi du mois. Peut-être que c'est justement pour des problèmes comme ce qui est arrivé aujourd'hui. Il devait y avoir un problème, on saura peut-être le mois prochain.
Ouais.
Bon, c'est l'énigme du jour. En attendant, après la bonne Mère Teresa, après les sirènes qui ne sonnent plus, eh bien avec les experts européens, nous nous intéressons au bon père version 21e siècle. Depuis l'abandon du modèle pater familias, comment investissez-vous votre rôle de père? Quelles sont vos attentes? Quels sont vos doutes? Vos difficultés, j'attends vos questions et vos témoignages, bien sûr, au 3921 ou sur europe1.fr. Et puis, comme chaque jour, vous aurez peut-être de la chance de voir un bon Père Noël qui passera encore chez nous aussi aujourd'hui.
Un autre genre de père,
voilà.
En quelque sorte.
Oh, il est sympa celui-là.
Merci, il est sympa avec vous. Parlez pour vous. Merci beaucoup, Elena. Nous nous retrouvons demain, Céline.
Avec plaisir, Franck, et demain.